si on se croisait par hasard sur la rue, dans n'importe quelle ville, à n'importe quel moment, on ne se reconnaîtrait pas. Si on se rencontrait chez des amis, situation impossible, vous en conviendrez, il faudrait qu'on soit présenté, qu'on fasse connaissance, comme on dit. Ce serait long et ardu, et forcément inutile. Car tout nous sépare. Car né au début d'un autre siècle, vous avez habité une autre terre, exploré une autre géographie, avec des moyens aujourd'hui désuets. Car vous êtes mort avant votre propre père, vos frères et vos sœurs, avant qu'éclate le monde et la carte du monde, et ces valeurs d'un temps révolu qui ont dû être les vôtres. Elles étaient celles de votre femme, ma mère en tout cas, celles de votre entourage, de vos propres parents, du Québec d'avant la Révolution tranquille. Et je les ai moi-même expérimentés. On a cherché à me les imposer. On a même réussi pendant un certain temps. Or, elles ne sont plus les miennes depuis belle lurette. Car le monde a changé. Car vous êtes disparus avant la mort en direct, la montée des extrémistes, l'intifada, le sida, la création de l'État d'Israël, le mur de Berlin, son érection, sa chute, le Vietnam, l'avènement de la télévision, avant Hiroshima mon amour, le tombeau des rois, l'ère du soupçon. Bien avant que mon cri monte et que l'écriture de la blessure pousse, irrépressible, entre mes doigts de femme gauchère. Me voici donc loin de vous, absolu fantôme disparu à 39 ans. J'en avais alors 5. J'en aurai bientôt 60. Et je pourrai être grand-mère et père inconnu.
Merci beaucoup, Denise Desautels, de cet extrait de « Ce désir toujours », qui est une espèce d'abécédaire que tu as publié chez l'EMEAC. Je voulais commencer notre discussion autour du rêve par ce passage, parce que dans ce passage, tu évoques la disparition de ton père, que tu as en fait peu connu, puisque comme tu l'écris, tu l'as perdu quand tu avais 5 ans. Et ma première question va être justement... comme tu as peu vu ce père, peut-être à part sur quelques photos, ou bon, tu as sûrement quelques images, mais est-ce que ce père t'est apparu en rêve depuis toutes ces années que tu as passées sans lui? Parce que Freud nous dit que le rêve est souvent une image très visuelle, et je me demandais quand on a perdu quelqu'un de très jeune, est-ce qu'on le réinvente ou on le revoit en rêve? Alors voilà ma première question pour toi.
J'ai pas le souvenir d'un rêve dans lequel apparaît mon père. Aucun souvenir. Alors que j'ai écrit père pour l'abécédaire, parce que à Paris, en décembre 2002, très tard, un soir, c'était même pendant la nuit, il devait être 1 ou 2 heures du matin, je me suis adressée à lui, à mi-voix dans la chambre, alors que je souffrais d'insomnie. Et je lui ai parlé, utilisant le « vous », comme je le dis très bien dans l'abécédaire, alors qu'on se tutoyait dans la famille. Et le lendemain matin, en fait, je me suis rendu compte que cette nuit-là, c'était l'anniversaire de sa mort. Mais au moment où je me suis adressée à lui, je n'avais aucunement pensé à la date et à la coïncidence. Voilà.
Donc, il est plutôt apparu par un retour du temps ou par une espèce de jeu sur le temps que dans un rêve. Et de ta mère, tu as rêvé plus durant ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'image de tes parents qui était présente dans tes rêves?
C'est-à-dire que ma mère a occupé une grande partie de ma vie, de mon corps même, puisque on a partagé la même chambre et le même lit pendant des années. J'étais une très grande jeune femme et je couchais encore dans la même chambre que ma mère. Je me souviens d'une nuit, d'un matin plutôt, je devais avoir 12 ou 13 ans, et on s'est réveillés, ma mère et moi, et au matin, on s'est dit toutes les deux qu'on avait rêvé le même rêve, c'est-à-dire la mort de sa jeune sœur, que j'accompagne aujourd'hui à l'hôpital, qui est toujours vivante. qui a été très près de ma mère et très près de moi. Et c'était très étrange, c'est-à-dire j'avais vraiment à ce moment-là pas pris conscience de la force de ma mère sur moi, c'est-à-dire pour qu'on en arrive à avoir, même pendant la nuit, comment dire, la même force obscure qui nous traversait l'une et l'autre, c'est quand même extraordinaire. Pour ce qui est de ma mère, du vivant de ma mère, je ne crois pas avoir beaucoup rêvé d'elle. Elle était tellement présente. Et malgré sa petitesse et sa faiblesse physique, elle était une femme qui savait ce qu'elle voulait et qui l'obtenait habituellement, même par les larmes, s'il le fallait. Mais depuis qu'elle est morte, donc depuis quelques années, il m'arrive de rêver à elle. Une fois, entre autres, en jeune femme, peut-être la jeune femme qu'elle était au moment, encore jeune, elle avait 34 ans quand mon père est mort, donc en jeune femme. Et puis, à un autre moment, plus récent, il y a quelques années à peine, et cette fois-là, je crois qu'elle n'était pas encore morte, c'est quelques mois avant sa mort, je l'ai rêvée, en fait, violente, extrêmement violente. Est-ce que tu veux que je raconte le rêve maintenant? Oui. En fait, je vois cette femme. Au matin, je me suis dit, cette femme est ma mère, en repensant au rêve. Elle est dans une maison et elle actionne un mécanisme qui fait en sorte qu'un homme qui est suspendu dans une pièce reçoive sur la tête des coups de hache ou de couteau à quelques reprises. Et à la fin, donc quand il en a reçu quelques-uns de ces coups, le mécanisme se poursuit, elle continue à actionner le mécanisme et il y a une bouche qui s'ouvre, comme une bouche d'égout, et le corps tombe. Ça, c'est la première partie du rêve. Dans la deuxième, elle refait les bagages, elle referme la porte derrière elle et apparaît tout à coup un nous, comme si j'étais avec elle. Nous nous dirigeons vers la voiture où il y a un jeune homme souffrant, malade, à l'arrière, sur la banquette arrière. Et au moment où on vient pour entrer dans la voiture, on voit une petite fille qui pourrait être moi, longer un des murs de la maison extérieure. Et je me souviens que quand j'avais pris en note ce rêve, j'avais ajouté, et sans bien penser, à ce moment-là, j'étais un peu pressée, je crois, après avoir noté le rêve, j'avais écrit quelque chose comme le torrent d'Anne Hébert inversé. Mm-hmm. C'est pas le, comme si c'était pas le fils qui tuait, mais c'est la mère qui tue. Bon, elle tue un homme et non pas sa fille, mais il reste que la petite fille est présente. Bon, mais évidemment, j'arrive pas très bien à découvrir. Comment dire, percer l'énigme de mes rêves. J'aime beaucoup rêver. Je trouve qu'il y a là une matière belle et toujours stimulante, mais je crois que je fais le tour du rêve. J'arrive mal à le percer. Voilà.
Mais peut-être qu'il ne faut pas le percer, peut-être qu'il faut le laisser comme ça, avec son mystère, le rêve. Tu vois, moi, je te posais cette question sur l'apparition de ton père dans tes rêves parce que j'avais l'impression que bon, ton œuvre a été faite beaucoup sur le deuil, hein, sur le deuil peut-être de ton père, mais d'une façon un peu cachée d'ailleurs, peut-être mystérieuse aussi. Ton père traverse ton œuvre, mais d'une façon, même s'il est présent et qu'on peut savoir que tu parles de ça à plusieurs endroits, je pense que c'est moins manifeste que la présence de ta mère ou la mort de ta mère ou même la mort d'une de tes amies, Lou, pour laquelle tu as fait un livre tombeau de Lou. Donc j'avais l'impression que toute ton œuvre était basée sur un tombeau et que pour moi, tu vois, l'absence, bien sûr, elle peut réapparaître. Comment dire, elle peut se donner à voir, l'absence, et pas seulement le mort, mais aussi son absence, se donne à voir, bien sûr, dans les livres, et c'est ce que tu fais. Mais je me demandais si le rêve avait été pour toi un lieu d'élaboration du livre, ou un lieu d'élaboration de cette présence-absence du mort. Tu vois, c'était ça. Mais quand tu me réponds tout à l'heure que finalement, c'était beaucoup plus dans l'adresse. C'est-à-dire que c'est ton père t'est apparu un soir parce que tu t'es adressé. Mmh. Alors là, je verrais plus ton œuvre du côté, en fait, de l'adresse au mort, mmh, ou l'adresse qui est presque de l'ordre, qui est presque de l'ordre de l'invocation. Tu appelles leur existence. Et je ne sais pas si, dans le fond, les morts te visitent ou si c'est plutôt toi qui les fais venir par tes livres ou par ces mots qui te sont venus une nuit et puis dont tu parles, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. J'avais envie, quand je t'ai parlé la première fois de ce projet, de te parler du rêve sans savoir pourquoi avec toi je voulais parler du rêve. Peut-être que je voulais parler des morts. Puis je me suis dit, il y a un rapport entre les morts et les rêves, pour moi en tout cas. Mais tu m'as tout de suite répondu, c'est drôle parce que je rêve pas tellement. Hein. Et puis bon, j'avais envie d'entendre ce pas tellement. Et je voulais aussi encore te demander, c'est un autre de tes morts que je connais, c'est Lou. Est-ce que tu as rêvé à cet ami Lou depuis sa mort?
Oui. Je reviendrai juste une toute petite seconde sur le rapport au père et au rêve. En fait, ce que je dirais, c'est que même dans mon travail, comme dans les rêves, ma mère a été surprésente. Et en fait, même quand j'ai parlé de la mort du père, je n'ai que nommé la mort du père presque toujours, puisque c'est la mère qui a été le mur entre mon père et moi. Et étrangement, en ce moment, justement à partir de l'abécédaire et des deux lettres où mon père apparaît, c'est-à-dire dans le père et dans le vous, à partir de ça, j'ai eu envie d'avoir un projet d'écriture qui concerne le père. C'est le projet dans lequel je suis et que je trouve si difficile, parce que j'ai l'impression que c'est un projet que je veux faire, mais qu'il y a une résistance intérieure à ce projet-là. Ou elle est intérieure, est-ce que c'est encore la mère qui fait écran et qui refuse l'apparition du père, alors que je me dis très bien, j'ai eu beau avoir répété pendant 50, 55 ans, 58 ans, que bon, j'étais pas en manque, que bon, c'est très bien qu'une vie sans père, c'est une vie de gauchère aussi, comme celle que je vis d'autre part, bon. Je reviens à Lou. Oui, j'ai même souvent rêvé de Lou depuis sa mort, très souvent, de ou à Lou. Et entre autres, un rêve étrange que j'ai fait après qu'on se soit parlé, donc après qu'on s'est parlé, donc tout récemment. Un rêve en deux parties, en fait. Et dans la première partie, Lou ne semble pas concerné. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un gigantesque trou qui pourrait être de grès ou de marbre, gigantesque, dans les tons d'oranger ou de beige, avec des hauts murs en pente, des pentes assez abruptes. Et au fond, une petite fille que je regarde. Moi qui suis en haut, c'est moi. Je regarde cette petite fille qui est en bas, qui ne dit rien, mais qui me regarde presque en me disant, avec son regard, viens me chercher, je suis là, je suis au fond d'un trou, même s'il est beau ce trou, je suis là et je ne peux pas en sortir. Et je me dis, mais si je descends moi-même, en moi, dans le rêve, je me dis, mais si je descends, si je vais la chercher, on va être prises toutes les deux, puisqu'il n'y a pas moyen de sortir de ce trou. Première partie du rêve. La deuxième, qui pourrait apparaître comme un deuxième rêve, et au matin, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a eu un réveil entre les deux? Je n'en étais plus sûre. J'ai l'impression qu'on passe dans une pièce à côté. Et on arrive donc dans une pièce qui peut, par moments, apparaître comme complètement noire. Et tout à coup, quand je lève le bras, je m'avance dans cette pièce, c'est comme si j'actionnais un mécanisme qui fait en sorte que des dessins apparaissent fluorescents d'un bleu poudre. Et là, je vois apparaître des boîtes qui peuvent être comme des boîtes comme dans les musées par exemple, mmh. des socles avec une partie plexi, une partie bois et des objets. Mais moi, je suis dos à ces boîtes-là, donc je ne vois pas les objets qui sont à l'intérieur. Mais quand ma main bouge, ce que je vois, c'est des petits dessins qu'il a fait pour être des signatures et qui sont des petits chats qui apparaissent dans l'espace. Et pourtant, une des boîtes se présentera côté plexi et là, je verrai, est-ce que c'est un pot de fleurs se dessiner, un pot de fruits, enfin, des formes, mais toujours dans un espace bizarre. Et il y a la plus grande des boîtes qui, elle, se trouve sur la droite. Pour moi, c'est une pièce grande, même si je suis dans le noir et qu'il n'y a que des petits signes fluorescents qui me permettent de voir des choses. Tout à coup, la plus grande des boîtes, fermée sur deux côtés, je sens que si je m'avançais, je pourrais voir à l'intérieur de cette boîte, qui est la plus grande, quelque chose, parce que je devine la partie plexi, illuminée, et je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Le rêve s'arrête là. Mais le lendemain matin, pourtant, quand je l'ai noté, la boîte, je jouais avec la boîte, je me disais, dans tombeau de loup, j'ai travaillé avec Alain Laframboise qui m'a donné des photos, mais tout le travail d'Alain que j'ai connu pendant 15 ans, Alain travaillait avec des boîtes. Il plaçait des objets dans des boîtes. À l'intérieur, faisait des petits théâtres à sa manière. Monique Bertrand, avec laquelle j'ai travaillé pour Cimetière, travaillait avec des boîtes elle aussi. Et une image est arrivée tout à coup. J'étais allée le jour de l'incinération de Lou. Et je suis entrée avec d'autres, mais je ne savais pas. J'étais naïve pourtant, même si c'était il y a quelques années. C'était la première fois que ça m'arrivait. Sa sœur, ses sœurs m'avaient invité, son frère vient. Alors, je suis entrée dans une pièce. Le corps s'est avancé sur un appareil comme un tapis glissant. Et juste avant que le corps entre dans la partie brûlante, enflammée, la boîte s'est ouverte. C'était une boîte de carton. Et j'ai vu la tête de Lou. Et je suis sortie. Et là, bon, je pourrais continuer en disant que j'étais un peu heurtée que ce soit une boîte de carton et non pas de bois, ou qu'on n'ait pas payé un cercueil et qu'on n'ait pas brûlé avec le cercueil, bon, etc. Mais là, ça, c'est autre chose. Mais pourquoi ai-je rêvé ça au moment où on venait à peine de se parler du projet. Peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, je t'avais dit, mais le tombeau de loup commence par un rêve, justement. Cette petite toupie qui se transformera lentement en canard, mais qui sera sans aile. Donc, là, donc, j'avais finalement eu l'explication en psychanalyse. Voilà.
Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis dans ce rêve, c'est peut-être le travail du négatif, c'est-à-dire dans ce rêve, avec ces boîtes, tu ne voyais pas, alors que dans la réalité, tu as plus vu que tu ne voyais dans le rêve, en fait. C'est comme si le rêve, peut-être aussi par rapport à ce que tu m'as dit sur ton père, le rêve chez toi n'est pas un dévoilement comme, ou en tout cas une vision. Le rêve, peut-être justement, tu parlais de la part de mystère tout à l'heure, le rêve est peut-être quelque chose noir, pour reprendre un mot, c'est-à-dire il y a comme peut-être même un effacement, ou je ne vais pas dire un interdit de voir, c'est pas ça du tout, mais une façon de voir autrement dans le noir, hein, peut-être pas du côté de la vision simple et finalement tellement banal d'un corps mort que ça en devient scandaleux. Il y a comme un mystère dans ton voir, dans les rêves, qui a l'air peut-être voir autrement ou qui permet d'imaginer autrement. Et je pense aussi à autre chose que tu viens de dire, c'est-à-dire dans les deux rêves que tu viens de raconter, c'est cette petite fille. Hein, cette petite fille, enfin, tu fais référence deux fois à cette petite fille qui est peut-être toi dans les deux cas, en fait. Et tu rêves de toi, petite fille, souvent, ou est-ce que tu te rêves à quelle époque quand tu te rêves? Est-ce que ça t'arrive de te rêver à d'autres moments de ta vie? Est-ce que ça t'arrive de te rêver souvent enfant? Parce que tu parles, dans beaucoup de tes livres, tu parles de toi enfant, de photos de toi enfant. Est-ce que tu pourrais répondre là-dessus?
C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le rêve, je suis rarement enfant. C'est quand je réfléchis sur le rêve, dans le deuxième temps, que là, j'en arrive à me dire, comme dans le cas, par exemple, de ce trou beige ou orangé, la femme penchée se penche vers elle-même, en fait, vers moi, petite, tu vois. Alors, mais est-ce que c'est moi qui le crois? Me rêver enfant, vraiment, je n'en ai pas le souvenir. Ça m'est peut-être arrivé, mais je le vois pas très bien. Ce que je peux dire par rapport, justement, à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à cette partie du rêve qui ne dévoile pas ou qui est ombre et qui garde, en fait, aussi son propre mystère. Quand j'étais enfant, j'avais terriblement peur des cauchemars, terriblement. Est-ce que j'en ai fait plusieurs que j'ai oubliés? Peut-être. Ma mère est une femme toute simple, qui ne connaissait pas Freud, dont le nom peut-être seul l'effrayait. Mais, elle n'avait pas, je crois, de connaissance de l'inconscient, ni des rêves, ni de la sexualité très bien. Mais je me souviens que une nuit, je m'étais réveillée, c'était sûrement après la mort de mon père et ce qui m'est arrivé plusieurs fois par la suite, et je me souviens qu'elle m'avait dit, si tu as peur de faire des cauchemars, essaie de voir pendant la journée s'il y a quelque chose qui s'est passé ou si, par exemple, tu as peur des sauterelles ou si tu ne veux pas rêver de sauterelles, pense fort, fort aux sauterelles. Tu vas les rendre très près de toi et elles ne viendront pas te surprendre dans la nuit. Et d'une certaine manière, elle avait raison, c'est-à-dire, sans se rendre compte de ce qu'elle disait, c'est-à-dire, plus on rend les choses conscientes, moins elles se retrouveront dans l'inconscient. Et à ce moment-là, parfois aussi, quand je pense au rêve et à mon rapport au rêve, je me dis, est-ce que, d'une certaine manière, je ne me suis pas empêchée de rêver par peur du cauchemar, justement? De ce qui, selon Pontalis, ce qui est très beau, cet enfant dans le livre qu'il cite, cet enfant qui disait que les rêves, c'était ce qui restait dans nos têtes, alors que les cauchemars, c'est ce qui s'avançait dans la chambre, ce qui traversait la chambre. Et donc, moi, j'ai passé ma vie à avoir peur de ce qui se promène dans la chambre. Et c'est peut-être pour ça que j'écris, enfin, pour essayer de mettre des mots sur ces fantômes, qui vont et viennent autour de nous, autour de moi, en espérant évidemment que dans les fantômes qui sont les miens, d'autres retrouvent les leurs. En fait. C'est ça.
Je pourrais associer librement sur le fait que tu parles de dans la chambre, parce que justement cette chambre que tu as partagée avec ta mère, tu as peur de ce qui se passe dans la chambre, et justement c'est ta mère qui souvent était dans la chambre, parce que nous avons ça en commun, nous avons dormi avec notre mère très longtemps, et moi aussi j'avoue que j'avais bien peur de ce qui pouvait se passer dans la chambre, et je préférais souvent ce qui pouvait se passer dans ma tête que dans la chambre. Mais je voulais aussi revenir à ce que tu dis depuis le début. Tu dis, j'ai noté que tu as dit, j'ai noté. Depuis le début, tu te lèves le matin et tu notes tes rêves. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un rêve qui est peut-être le seul rêve qui a consciemment, en tout cas, généré un livre. Mais ces résidus de rêves ou ces morceaux de rêves que tu notes, est-ce qu'ils te permettent d'écrire? Est-ce que tu t'en resserres? Ou tu t'en sers, parce qu'on va resserrer, mais est-ce que tu t'en sers pour tes livres? Est-ce que, au contraire, ils viennent travailler, mais d'une façon plus mystérieuse? Est-ce que tu les écris justement pour les rapprocher de toi? Est-ce que tu les écris pour les dompter comme les animaux imaginaires? Qu'est-ce que tu fais de ces morceaux de rêve qui te viennent le matin? En les notant, qu'est-ce que c'est les noter?
C'est vraiment pour le souvenir, parce que je me rends compte que justement certains rêves sur lesquels je n'ai pris que quelques petites notes, si je laisse le cahier de côté quelques temps et que j'y reviens, si les notes ne sont pas suffisantes, je m'aperçois que le rêve m'échappe, qu'il disparaît. Et c'est arrivé, donc préparant les rêves pour cette rencontre, je me suis rendu compte que avec une dizaine de mots seulement, je n'arrivais pas à recréer. Par exemple, il y a deux rêves qui concernent mon fils, mais j'ai si peu de mots que je pourrais pas les raconter. Je sais que dans un, je suis en France, il me téléphone et qu'il pleure continuellement pendant toute la durée de notre contact téléphonique. Mais comment ça s'est passé, comment j'ai réagi, que, j'ai plus la mémoire de ça. Et oui, les rêves peuvent facilement m'échapper, alors que je crois que dans la vie, les événements que je vis et qui me troublent, j'aurais une mémoire même trop grande parfois. J'aimerais avoir une mémoire de l'oubli parfois. Et mais pour les rêves, si je ne retiens pas, le rêve se défile complètement. Alors, il faut donc que je le note assez bien pour qu'il résiste, pour qu'il y ait une présence sur la page. Ensuite, bon, évidemment, ça ne m'est pas arrivé très souvent, consciemment, de dire « voilà, je vais utiliser ». Bon, dans le cas de Lou, j'ai été à ce moment-là en psychanalyse et évidemment, il y avait une lumière qui s'était faite tout à coup et je trouvais intéressant que ça ouvre le livre, en fait, ce rêve. Ils sont en italique et non pas en romain. Bon, vraiment comme une petite piste pour le lecteur et pour moi aussi, puisque c'était au début du travail que le rêve s'est présenté. Mais sinon, c'est peut-être quelques phrases ou quelques mots parfois, puis je pourrais me dire après, « Ah, cela vient du rêve ». Mais sinon, ce serait plus la dernière hypothèse que tu mettais de l'avant, celle d'un travail qui doit se faire à mon insu et qui fait en sorte que l'écriture est ce qu'elle est, travaillée par cette part de rêve que j'arrive un petit peu à conserver, même celle aussi que je n'arrive pas à conserver, mais qui doit aussi faire son chemin à l'intérieur de moi comme à l'intérieur de tout le monde. Hein. Je pense que c'est cette persistance de l'inconscient, de ce que Pontalis appellerait aussi le désir. Il y a quelque chose là qui n'est pas complet, qui est de l'ordre d'une éternelle insatisfaction. Et c'est pour ça qu'on continue et à rêver et à vivre, et je dirais, et à écrire, puisque je pense que tout ça va ensemble.
Mais tu sais, beaucoup de gens, au matin, ne tiennent pas à écrire leurs rêves. Qu'est-ce qui disparaîtrait si tu ne les écrivais pas? Tu sais, je ne parle pas, c'est pas par rapport à un travail à venir, mais pourquoi cette nécessité d'écrire ces rêves? Tu vois, moi, je n'écris jamais mes rêves. J'aurais d'ailleurs peur, en les écrivant, de les chasser. Moi, ça serait, tu vois, je les chasserais, je ne les écris pas. Mais d'ailleurs, je les perds. C'est vrai que j'en perds beaucoup comme ça. Mais qu'est-ce qui s'effacerait pour toi au matin si tu n'en écrivais pas? Qu'est-ce que ce serait, cette catastrophe de les perdre?
Mais je ne les prends pas tous. Hein,
non.
En notant, je crois que... Bon, parfois aussi, c'est qu'une image qui reste. Mmh. Et l'image qui reste ne m'apparaît pas intéressante. Donc, je ne vois pas ce que j'en ferais ou même ce que j'en ferais. J'aime même pas cette expression-là parce que j'en note, je ne les note pas tous, je n'en ai pas noté tant que ça. Ceux que je note m'apparaissent comme plus significatifs et plus mystérieux tout à la fois. Je veux dire, c'est ça. Pourquoi cet enfant dans ce trou? Pourquoi ces boîtes mystérieuses? Pourquoi cette femme qui tue à coups de hache un homme qui s'est avéré être un comédien? Bon, je cherchais le matin, ce qui me vient, c'est Sicotte. Oh, j'ai pensé à Gilbert Sicotte et j'essayais de voir quel est le rapport de ma mère ou de moi à Gilbert Sicotte. Et là, je voyais dans Sicotte le mot « si ». Alors, comme j'avais hésité entre le mot « hache » et le mot « couteau », j'avais l'impression que le nom du comédien me suggérait une troisième arme, si on peut dire. Mais, bon, là, c'est pas le mystère qui m'intéresse, mais il reste que, oui, l'autre type de mystère m'intéresse. C'est-à-dire, quand on est aux prises avec ce rêve de violence, par exemple, ou des rêves de mystère, ou de vrais mystères, comme dans un film plus mystérieux. Ces mystères-là, ou ces violences-là, je me dis, si elles passent dans mon inconscient, c'est qu'elles m'habitent. Donc, si je prends en note ces choses-là, peut-être qu'à long terme, je comprendrai quelque chose. Peut-être. Donc, il y a peut-être ça fait partie de ce que j'appelle mon utopie. J'écris pour changer et le monde et moi-même. Je crois en ceci, moi qui suis une pessimiste naturelle. Et peut-être que dans les rêves, je me dis, peut-être que, et je crois que, je me raconte peut-être des histoires. Mais contrairement à toi, si je n'écrivais rien, maintenant, pas enfant, mais maintenant, tout s'estomperait, tout s'effacerait, il ne resterait rien, je le sais. Parce que les quelques fois où j'ai négligé de noter, deux jours après, je me disais, pourtant, je sais que le rêve était intéressant. Je me l'étais répété, et j'avais eu beau faire ça, ça n'a pas été suffisant. Il fallait les mots écrits dans le cahier.
Mais je te taquinais un peu, c'est parce que c'était pour arriver à ton écriture aussi. Parce que moi, en te lisant, j'ai vraiment l'impression que tu écris contre l'oubli. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ce même travail-là. C'est-à-dire que tu inscris des choses qui sont excessivement fragiles, qui sont déjà disparues très souvent, qui sont souvent comme des photographies déjà jaunies et qui sont prêtes qui sont mangées un peu par les acides, ou alors tu écris carrément sur ce qui est en train de disparaître. Des fois même, on ne sait pas si c'est en train de disparaître ou si c'est déjà disparu, comme pendant la mort. On ne sait pas si y a des moments où ta mère est morte ou elle est en train de mourir. En fait, les temps sont confondus. Il y a quelque chose dans ton écriture de « ça va disparaître et c'est déjà disparu ». Et en même temps, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai taquiné un peu sur cette catastrophe. Mais en même temps, j'ai l'impression, en te lisant, que tu écris contre cette catastrophe-là, que tu fais des tombeaux, hein, que ce livre, Tombeau de loup, pour moi, c'est un livre qui est très important parce que ma fille s'appelle Lou et c'est sûr que je l'ai lu en voyant que tu avais aimé une femme, une grande amie à toi qui s'appelait Lou, et c'est un mot, nous partageons ce signifiant, c'est un signifiant d'amour pour toutes les deux. Mais en même temps, je me suis dit, mais le livre de Denise, Tombeau de loup, c'est aussi, c'est pas un beau mot, mais c'est paradigmatique de toute son œuvre. C'est-à-dire, j'avais l'impression que dans ce livre-là, tu disais finalement que tu faisais des tombeaux. Il y avait eu Cimetière, où il y avait mais en même temps, Tombeau de loup, moi j'ai l'impression que tu fais.
Si on se croisait par hasard sur la rue, dans n'importe quelle ville, à n'importe quel moment, on ne se reconnaîtrait pas. Si on se rencontrait chez des amis, situation impossible, vous en conviendrez, il faudrait qu'on soit présenté, qu'on fasse connaissance, comme on dit. Ce serait long et ardu, et forcément inutile. Car tout nous sépare. Car né au début d'un autre siècle, vous avez habité une autre terre, exploré une autre géographie, avec des moyens aujourd'hui désuets. Car vous êtes mort avant votre propre père, vos frères et vos sœurs,